Et sur France Inter, le journal, c'est Kevin Dufresne. Bonjour Kevin.
Bonjour à tous. La bataille du feu, toujours en Grèce. Les pompiers mobilisés contre une centaine d'incendies dans tout le pays, touchés par une canicule exceptionnelle. Ça brûle, notamment sur le mont Parnasse, non loin d'Athènes, où des dizaines d'habitants sont obligés d'évacuer. Reportage sur place dès le début de ce journal. À la une également, les craintes des syndicats qui persistent sur le pass sanitaire obligatoire pour certains salariés. Le contrat de travail ne pourra pas être rompu pour les CDD, mais il pourrait être suspendu, dit le Conseil constitutionnel. Les sages qui ont validé une grande partie de la loi sanitaire du gouvernement, les antipas, appellent à manifester à nouveau demain. Le ministère de l'Intérieur craint des débordements. Nous irons aussi en Malaisie où l'opposition accuse le gouvernement d'utiliser le Covid pour se maintenir au pouvoir. Les députés n'ont pas le droit de siéger. Les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est presque fini. Paris prend déjà le relais. Et puis Raisonné, Bnews et Cornemuse, Lorient retrouve ce soir son festival interceltique. 50e édition de la musique aussi dans un autre style avec vos invités dans 20 minutes, Laetitia.
Ah oui, il aurait eu 100 ans cette année, Georges Brassens. Que reste-t-il de Brassens aujourd'hui? De l'Auvergne à de la Messe au pendu de Saturne, on se posera la question à 8h20. À 7, sa ville natale, on le fait en grande pompe pour en parler. Jeanne Corporon, dont le père était un proche de Brassens. Elle est aussi adjointe à la mairie de 7. Maxime Le Forestier, qui a hérité de la Bible de Brassens, l'ensemble de ses chansons annotées et demi-portions rappeur sétois pour qui Brassens est le premier rappeur français, figurez-vous. Vos questions 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr, vous cliquez sur l'onglet Réagir.
France Inter. Un chiffre ce matin, 150 000, c'est le nombre de feux actuellement en cours dans le monde, de la Sibérie à l'Amérique du Nord, Canada et Californie, où cela fait plus d'un mois que les forêts brûlent. Et depuis une semaine, le sud de l'Europe est touché, la Turquie et la Grèce confrontées à la pire canicule depuis 30 ans et où les pompiers se battent toujours ce matin pour préserver le site antique d'Olympie, berceau des Jeux, l'île d'Eubée ou encore les environs d'Athènes. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Envoyée spéciale de France Inter dans la capitale grecque. Julie, vous étiez hier soir au Mont Parnasse, 40 km au nord d'Athènes, où plusieurs villages ont dû être évacués.
Oui, la colonne de fumée est vraiment impressionnante. Elle est visible depuis certains quartiers d'Athènes. C'est la forêt de pins qui brûle depuis plusieurs jours. Sur la route des barrages que Miralles Vretos, adjoint sur la commune d'Aranon, nous a permis de franchir.
C'est terrible. Je ressens de la détresse, de l'aigreur et de la culpabilité pour les jeunes qu'on ait laissé les choses en arriver là.
Sur les bordures de la chaussée qui se fait plus étroite, des arbres calcinés, des carcasses de voitures, le chant des cigales a brusquement cessé et l'odeur de fumée prend à la gorge.
Vous voyez comme les avions volent bas pour être au plus près des flammes. Mais malheureusement, c'est insuffisant.
Une alarme retentit sur tous les téléphones, alerte des autorités, il faut évacuer le secteur rapidement. Yorgos est pompier volontaire.
Le feu est dangereux parce que la forêt est très dense et elle a subi une longue période de sécheresse et de canicule. Le degré d'humidité de la végétation est très bas. Les incendies sont extrêmement durs à éteindre ici.
Des dizaines d'habitants ont déjà été forcés de quitter leur maison. Tassos Cavallares veut lui rester le plus longtemps possible pour garder un œil sur son restaurant déjà endommagé par les flammes il y a quelques jours.
Avant-hier, je suis parti en dernier. Je ferai tout pour le sauver.
La situation évolue rapidement alors que les températures devraient encore atteindre aujourd'hui à Athènes les 40 degrés. À Athènes, Julie Pietri, France Inter.
Et les autorités font état ce matin de 5 blessés dans cet incendie au nord d'Athènes.
La nouvelle loi sanitaire officiellement promulguée.
Publiée au journal officiel ce matin après la validation d'une grande majorité du texte par le Conseil constitutionnel hier. Seul revers pour le gouvernement, les sages censurent l'isolement obligatoire pendant 10 jours en cas de test positif, ainsi que la disposition qui permettait de rompre un contrat CDD ou d'intérim pour un salarié qui ne voudrait pas présenter de passe sanitaire alors qu'il travaille dans un établissement recevant du public où ce sera obligatoire à compter du 30 août. En revanche, le Conseil valide la suspension du contrat de travail et donc de salaire pour ces mêmes travailleurs. Résultat, sentiment mitigé du côté des syndicats. Manuel Ruffez.
Il y a d'abord un soulagement côté syndical, celui de ne pas avoir traité différemment les CDD intérimaires des CDI. Les syndicats dénonçaient là une discrimination en fonction du contrat de travail. Benoît Teste, le secrétaire général de la FSU.
Les salariés les plus précaires sont souvent les plus en difficulté. Il peut y avoir des mauvais arguments pour s'en débarrasser. Et par ailleurs, on sait aussi que parmi les populations les plus fragiles, il y a aussi ceux qui ont été le plus hésitants peut-être, mais aussi parfois les plus éloignés de l'information tout simplement, les plus en difficulté avec Internet pour prendre des rendez-vous, etc., etc.
Pour tous les syndicats, en revanche, la validation de la procédure de suspension du contrat de travail est un revers, une discrimination à l'état de santé, dit la CGT, un pouvoir inédit donné à l'employeur pour la FSU, un moyen de pression, affirme Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière.
Ça reste une menace, hein. Un salarié ne peut pas vivre sans son salaire. Reclasser un salarié d'un secteur d'activité à l'autre, si vous êtes dans un café, un restaurant, ce sera difficile de trouver un poste qui vous écarte de l'obligation de disposer d'un pass sanitaire valide. Donc ça reste une menace lourde pour les salariés.
Et les syndicats l'affirment, il aurait mieux valu informer et rassurer que sanctionner.
Manuel Ruffez, le pass sanitaire va donc être étendu dès lundi aux bars, aux restaurants, aux transports longue distance ou encore aux hôpitaux, ce qui risque de ne pas calmer la contestation des antipass sanitaires. Une nouvelle journée de manifestation est prévue demain, un peu partout en France, quatrième samedi d'affilée. Le nombre de participants n'a fait qu'augmenter de semaine en semaine et le ministère de l'Intérieur craint désormais la présence d'éléments violents, comme ce fut le cas lors de certaines manifestations des Gilets jaunes il y a 2 ans. Emmanuel Leclerc.
200 000 manifestants à nouveau partout en France et à minima, c'était l'évaluation mercredi soir des différents services de renseignement territoriaux et donc avant la décision du Conseil constitutionnel. Une réévaluation sera effectuée dans la journée. Mais de toute façon, ce n'est pas là où il y aura les plus gros cortèges que l'on est inquiet, confié hier soir une source au ministère de l'Intérieur, comme à Montpellier et Toulon. Mais plutôt là où les groupuscules d'extrême gauche s'étaient déjà illustrés il y a 2 ans, notamment Toulouse, Bordeaux et Nantes. Mais il y a d'autres inquiétudes, comme à Pau et Rouen, où des appels à bloquer des centres commerciaux ont été lancés. L'objectif, confie cette même source, Place Beauvau, sera donc d'éviter au maximum que les cortèges très populaires, très familles, ne restent pas statiques, ils ne soient pas bloqués, car c'est là que certains en profitent pour provoquer les forces de l'ordre, que tout le monde se retrouve dans des nuages de lacrymogènes et que tout dérape.
Emmanuel Leclerc, le Covid à l'étranger et en Malaisie, il met à mal la démocratie. L'opposition accuse le gouvernement d'utiliser la pandémie pour se maintenir au pouvoir. Un gouvernement dirigé par Muhyiddin Yassin, désigné Premier ministre par le roi en mars 2020, juste avant le premier confinement, sans avoir été élu. Et les députés qui voudraient organiser un vote de défiance ne peuvent pas siéger depuis janvier et l'instauration de l'état d'urgence. Il vient d'être levé, sauf que le Parlement reste fermé. Raison invoquée par le gouvernement, des cas de Covid détectés à l'intérieur du bâtiment. À Kuala Lumpur, la correspondance de Gabriel Maréchaux.
Si le muezzin continue de chanter à Kuala Lumpur, les rues sont-elles désertes et le chaos politique dans lequel vit le pays depuis lundi n'est pas apparent. Ce jour-là, le député Sayed Sadiq a essayé en vain d'entrer au Parlement. Pour lui, le coronavirus n'est plus une excuse valable pour geler la vie politique.
Les usines peuvent ouvrir, certains casinos peuvent ouvrir, mais le Parlement doit fermer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La majorité des députés et leurs équipes ont déjà reçu 2 doses du vaccin. Est-ce que le gouvernement doute de l'efficacité du vaccin?
Tuan Chua est lui aussi dans le collimateur des forces de l'ordre après avoir participé à une manifestation demandant la démission du Premier ministre. Pour le vice-président du premier parti d'opposition, penser qu'un gouvernement autoritaire est plus apte à sortir un pays de la pandémie est également une fausse route.
Des régimes autoritaires peuvent se défendre en disant qu'avoir plus de pouvoir permet de mieux combattre la pandémie. Mais il a été prouvé que ce n'est pas la vérité, car pour cela, il faut s'appuyer sur la science et des informations objectives.
Lorsque l'état d'urgence a été déclaré en janvier dernier, la vie parlementaire a été gelée et le gouvernement avait argué qu'il pourrait ainsi mieux combattre le Covid. 19. 7 mois plus tard, la Malaisie a un record inégalé de cas de Covid et de décès après 2 mois de confinement strict et une prochaine session du Parlement repoussée à septembre. Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux, France Inter.
8h09 à l'écoute de France Inter. La suite du journal Kevin Dufraîche. On passe à la dernière étape de notre Tour de France des régions.
Toute cette semaine, nous vérifions si les premières promesses des présidents de régions réélus il y a 1 mois ont été tenues. Et on termine ce matin avec le Grand Est et son président Les Républicains, Jean Rottner, qui pendant la campagne avait beaucoup parlé sécurité pour couper l'herbe sous le pied du Rassemblement National. Voilà ce qu'il disait le 10 juin dernier lors d'un débat sur France Bleu.
C'est un sujet qui aujourd'hui est le sujet numéro un de nos concitoyens, donc ça devient mon sujet, en tout cas, depuis de nombreux mois, et nous progressons là-dessus. Nous avons la possibilité, effectivement, de créer des centres de vidéosurveillance éventuellement au niveau d'un territoire, au niveau d'un département. C'est faisable et c'est pour ça que nous avançons aujourd'hui dans cette volonté de soutenir les communes dans leur équipement en termes de sécurité.
Alors Maxence Lambrecq, a-t-il été question de ce thème de la sécurité lors de la première séance plénière à la région ?
Eh bien oui, les conseillers régionaux ont voté une aide aux communes voulant s'équiper en vidéosurveillance. La région versera la moitié du budget investi avec un plafond à 20 000 euros. Les grandes villes ne sont pas éligibles. Jean Rottner privilégie les zones rurales. Et sur son site internet de campagne, c'était, il faut le dire, sa première promesse. Il évoquait aussi le développement des caméras dans les lycées, dans les gares. Ce qui n'est pas du goût de son opposante écologiste Caroline Reiss.
Sans coordination policière, un tel essaimage de caméras n'aura aucun effet sur la délinquance et la criminalité. Investir dans l'humain est toujours plus efficace qu'une réponse technologique.
Le RN, lui, a voté en faveur du dispositif qu'il juge bien trop modeste. L'ancienne tête de liste, Laurent Jacobelli.
Vous reprenez des éléments du programme du Rassemblement National, mais vous parlez comme Monsieur Dupont-Moretti. C'est très inquiétant. Vous parlez de révolution sécuritaire, moi je parlerai de communication sécuritaire.
Il faudra voir dans un an combien de communes ont fait appel à cette enveloppe, si la délinquance du quotidien y a diminué. Dans son bilan de fin de mandat, Jean Rottner mettra cette fois une colonne sécurité.
Maxence Lambrecq, une nouvelle journée de jeu à Tokyo. Et après le triple succès français des messieurs hier en sport collectif, on espère la même réussite pour les dames aujourd'hui. Deux demi-finales à suivre, le basket à 13h France-Japon. Et dès 10h, les handballeuses affrontent la Suède contre qui elles ont fait match nul en poule. Alors l'arrière française Alison Pinault veut sa revanche.
On les attend vraiment au tournant, vraiment cette équipe de Suède. On retrouve sur ce dernier carré trois équipes de notre poule. C'était vraiment que cette poule, elle était vraiment dense et difficile. Il a fallu avoir les reins solides quand même pour s'en sortir. Voilà, je suis vraiment très heureuse de nouveau de rejoindre voilà, les demi-finales avec cette équipe extraordinaire. Extraordinaire vraiment d'avoir su switcher, d'avoir su voilà, avoir le déclic au bon moment pour pouvoir prétendre à une médaille au moins, au minimum.
Alison Pinault au micro de Xavier Monferrand. Tokyo, ce n'est pas encore terminé et pourtant Paris 2024 entre déjà sur la scène olympique puisque pendant la cérémonie de clôture dimanche, la maire de Paris, Anne Hidalgo, recevra le drapeau olympique. C'est la tradition, mais Paris veut aller encore plus loin. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Kevin.
Parce que pour la première fois, la cérémonie de clôture, elle va avoir lieu aussi depuis la capitale française.
Oui, alors les organisateurs ne veulent pas tout dévoiler, notamment le nom de l'invité surprise qui fera le passage de témoin entre Tokyo et Paris, je vous laisse imaginer. Mais déjà, Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, promet quelque chose de complètement inédit avec la fin de la cérémonie de clôture qui sera orchestrée depuis Paris. 12 minutes de séquence artistique avec comme temps fort le déploiement d'un drapeau géant sur la Tour Eiffel.
Nous serons devant la Tour Eiffel, place du Trocadéro, pour hisser ce drapeau très symbolique. Alors c'est à peu près l'équivalent d'un terrain de football, donc c'est vrai que ça serait du coup le premier record du monde de Paris 2024. Notre défi, c'est de réussir à hisser et faire voler ce drapeau sur la Tour Eiffel de la taille d'un terrain de football.
Des répétitions ont eu lieu en juin pour relever ce défi qui aura lieu en présence ce dimanche de tous les athlètes olympiques français rentrés en France pour une grande fête populaire et même participative.
L'objectif, encore une fois, c'est pour la première fois de pouvoir permettre effectivement à la population de faire partie du spectacle, parce que ça va être un petit peu ça aussi l'innovation, c'est qu'on va vraiment accueillir le monde collectivement et souhaiter la bienvenue à toutes ces délégations qui terminent leur jeu et leur donner rendez-vous en 2024 à Paris.
Et tout se terminera en musique avec un concert de Woodkid, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, bien sûr.
Son concert gratuit et ouvert à tous, à condition de présenter, bien sûr, un pass sanitaire. Ce sera aux alentours de 13h.
Fanny Lechevestrier et Woodkid, donc, en direct de Tokyo, grâce aux équipes techniques de Radio France. Merci. Lionel Messi n'est plus un joueur du FC Barcelone. Le club l'a annoncé hier. Un accord avait été trouvé, mais le plafonnement des salaires imposé par la Ligue espagnole de football empêche de signer le contrat. Selon le club catalan, à 34 ans, Lionel Messi est donc libre. Le PSG ou encore les deux clubs de Manchester pourraient se positionner sur le dossier. Toujours en foot, retour de la Ligue 1 ce soir. Monaco-Nantes en ouverture, c'est à 21h.
Merci Kevin Dufraîche. On va quand même aller parler de la Bretagne. Hein. J'allais vous dire au revoir, mais non, je vais aller. La Bretagne retrouve sa bande-son.
Et oui, le Festival Interceltique de Lorient débute ce soir jusqu'au 15 août, 50e édition de ce grand rendez-vous qui avait été annulé l'année dernière à cause de la crise sanitaire. Cette année, le festival est bien maintenu. Le programme est allégé. Il n'y aura pas la grande parade en extérieur, par exemple. Mais les bagadous, les groupes de musique traditionnelle bretonne vont se succéder comme d'habitude sur scène, avec notamment la présence du prestigieux bagad de Pontivy. Vous avez assisté aux dernières répétitions, Maureen Suignard.
Ils ont dû se passer les uns des autres pendant des mois et continuer à s'entraîner à distance à cause de la crise sanitaire. C'est le cas de Pierre-Yves, surnommé Pio, dans le bagad.
On savait pas trop quand on pourrait reprendre, mais on jouait de la cornemuse en appartement, c'est pas très très pratique.
Compliqué donc alors la reprise des répétitions après des mois sans jouer ensemble, explique Iflam Louis, président de Kerlen Pondy et sonneur de bombarde au bagad.
C'est quand même des instruments qui sont assez physiques, notamment la bombarde et la cornemuse, ça demande quand même du souffle, des lèvres, une bonne part d'endurance qui avait été perdue.
Pas de concours cette année, mais un grand concert, décision de la Fédération des musiciens traditionnels bretons, plutôt bien acceptée.
Je ne suis pas sûr que ça aurait été très sain en fait, de se jeter tout de suite un peu dans la gueule du loup. Tout le monde avait besoin aussi de reprendre le rythme tranquillement, après cette période un peu compliquée.
Tous ont pu remonter ensemble sur scène la semaine dernière à Pontivy, mais le Festival Interceltique de Lorient est un rendez-vous d'une autre dimension.
Le rendez-vous un peu sacré de l'été pour tous les bagadous, j'espère que ce sera un grand moment.
Un grand moment aussi pour Glenn, sonneur de cornemuse.
On ne réalise pas trop parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'autres fêtes cette année. Pour nous, c'est d'abord l'occasion de revoir les copains, tous les autres groupes.
De quoi ressouder le bagad pour repartir de plus belle, espère le président de Kerlen Pondy.
Le reportage tout en bignou de Maureen Suignard, France Bleu Armorique.
Et c'est pas comme si on allait en parler tout à l'heure, demain plutôt à 7h50.
Le rendez-vous est pris.
Le rendez-vous est pris. Merci Kevin Dufraîche, on y est arrivé.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Vous avez un petit air breton, Stéphanie Fromentin, parce qu'il pleut encore un peu. Allez, je suis mauvaise langue. Hein.
C'est à cause de votre biniou. Des pluies s'enfoncent sur un large quart nord-est et vont progressivement quitter le pays. Ce matin, le ciel restera plutôt nuageux avec quelques gouttes vers l'Auvergne et des averses sur les Hauts-de-France et l'Alsace qui pourraient offrir quelques orages vers le Nord-Pas-de-Calais et la Somme. En bord de Méditerranée jusqu'aux Alpes, en revanche, le ciel est plus dégagé. Cet après-midi, ça va prendre ses aises, s'étendre vers le Lyonnais. Des éclaircies vont profiter à l'ensemble de l'Hexagone puisqu'elles vont s'élargir à la Côte d'Opale et au nord de l'Aquitaine, alors que de petites averses pourront encore glisser entre le nord de la Bretagne et les frontières du nord en passant par la Lorraine. Et le vent assez sensible sur les côtes de la Manche, 60-70 km par heure, continue de souffler sur le Var et la Corse par rafale de 80-90 km par heure.
Et les températures, elles n'ont pas eu le temps de prendre des couleurs. Hein.
Alors non, cet après-midi, à part sur la région méditerranéenne où c'est clairement l'été avec 26-32 degrés, elles seront plutôt comprises entre 19 et 27 degrés. 21 degrés à Lille, 22 à Bayonne, 24 à Paris et Strasbourg, 25 à Annecy, 27 degrés à Sète jusqu'à 33 à Colombrières.
Merci beaucoup Stéphanie Fromentin. Il est 8h18, c'est Géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Huawei, Dubaï. Wahdahoum, Souria. Sur France Inter.
Bonjour Anthony Bélanger.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous.
Vous allez nous parler d'Espagne, d'argent et de tête couronnée.
Oui, ça fait presque une année, jour pour jour, que l'ex-roi d'Espagne, Juan Carlos, a fui Madrid pour se réfugier aux Émirats Arabes Unis. Il laissait derrière lui plusieurs enquêtes pour corruption et fraude fiscale, sans oublier quelques valises de billets à Lausanne, une maîtresse bavarde et revancharde, une fondation où planquait l'argent saoudien de la corruption et appelée Fondation Loukoum, on ne manque pas d'humour chez les Bourbons d'Espagne. Mais bon, les Espagnols sont habitués, les Bourbons d'Espagne donc, donc, ont perdu 4 fois leur couronne en 1,5 siècle. Le grand-père, le père et donc Juan Carlos lui-même ont tous connu l'exil. En clair, depuis Varennes, c'est plus qu'une exception la fuite royale chez les Bourbons. C'est une tradition.
Alors, est-ce qu'au moins l'État espagnol a récupéré une partie de cet argent ?
Oui, mais au fur et à mesure des régularisations, les Espagnols se sont rendus compte à quel point celui qu'on doit encore appeler Sa Majesté, figurez-vous, après tout, il est officiellement roi émérite, n'était qu'en fait qu'un voleur de poule, ou plutôt un bandit de grand chemin. Les premiers 678 000 euros récupérés par le fisc espagnol correspondaient à des cartes bancaires occultes fournies par un homme d'affaires mexicain. En février, le fisc encaissait 4 400 000 euros pour épurer 8 millions d'argent liquide non déclaré. Sans oublier les commissions sur les contrats d'armement qui s'apparentent, selon les juges eux-mêmes, à du trafic d'armes. Inutile de préciser que Sa Majesté Jean-Charles Ier, roi d'Espagne et de Jérusalem, n'est pas prêt de revoir son joli palais de la Zarzuela.
Alors, Anthony, qu'en pensent les Espagnols ? Est-ce que la monarchie est-elle encore populaire ?
Eh bien, figurez-vous qu'on ne peut pas vraiment savoir parce que l'équivalent de l'INSEE local, le CIS, ne mesure plus la popularité de la monarchie espagnole depuis 2015, au lendemain d'une évaluation du roi Philippe VI qui lui donnait une note de 4,34 sur 10, c'est-à-dire même pas la moyenne. Du coup, la presse s'est substituée à cette drôle de décision d'un organisme public en organisant ses propres sondages. Résultat, 48% des Espagnols pensent que la monarchie est une institution démodée. Et c'est encore pire lorsqu'on leur pose la question suivante. Quelle forme d'organisation de l'État aurait votre préférence ? Eh bien, ils sont 41% à préférer une république et seulement un tiers, une monarchie. Avec cet élément en plus, près de la moitié d'entre eux voudraient être consultés par référendum.
En fait, on leur a jamais posé la question ?
Jamais. À la mort dans son lit du dictateur Franco en 1975, son régime a eu le temps d'imposer le retour de la monarchie et même le nom du roi, Juan Carlos donc. C'est même le seul pays au monde à avoir réinstallé la monarchie au XXe siècle. Contrairement aux Italiens, qui se sont prononcés à l'issue de la Seconde Guerre mondiale sur le maintien ou non de la monarchie, les Espagnols n'ont jamais eu cette chance. Pour cela, il faudrait un consensus entre les partis qui, évidemment, n'existe pas.
Merci Anthony Bélanger et à lundi à suivre le grand entretien autour du centenaire de la naissance de Georges Brassens.